La Bible en 24 heures. Je vais parler dans le micro, c'est pas pour vous, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur branché, mais c'est pour essayer d'enregistrer de façon que s'il y en a qui veulent se joindre à nous, ils puissent reprendre plus tard l'étude. Je vais demander à Stéphanie si tu veux bien me distribuer un plan. Pardon. Est-ce que vous connaissez la Bible en 2 minutes ? La Bible en 2 minutes ? Oui, je vais vous la lire. Il aime. Il a créé. Nous avons péché. Il est venu. Il est mort. Il est vivant. Il a payé. Nous sommes pardonnés. C'est gratuit. C'est pas un piège. Répandez la parole pour qu'ils choisissent la mort ou Jésus. Faites-le pour dire merci, pas pour gagner des bons points. Il va revenir nous chercher. En attendant, parlez de lui et restez proche de lui. Soyez gentils. Ne vous battez pas. Riez ensemble. Pleurez ensemble. Essayez de ne pas vous faire du mal. Quand vous faites du mal, demandez pardon. Quand on vous a fait du mal, pardonnez. Faites des progrès dans ces 2 domaines. Cherchez à faire des choses bien. Cela vous aidera à passer le temps jusqu'à ce qu'il revienne. Pendant ce temps, essayez de lui ressembler davantage. Attendez, et pendant que vous attendez, aimez. Ça, c'est la Bible en 2 minutes. La Bible en 24 heures, c'est donc un survol de l'ensemble de la Bible pour que on comprenne mieux comment ça s'enchaîne, l'Ancien et le Nouveau Testament, comment les livres s'articulent. La Bible, c'est un livre unique au monde. Des hommes célèbres en ont parlé en ce sens. Blaise Pascal, notre héros national, a dit « Sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et nous ne voyons que l'obscurité et la confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. » George Washington, le premier président américain, a dit « Il est impossible de bien gouverner le monde sans Dieu, sans la Bible. » Napoléon a dit « La Bible n'est pas un livre ordinaire, mais elle est une créature vivante avec le pouvoir de conquérir tous ceux qui s'opposent à elle. » Victor Hugo a dit « Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairé par toute la sagesse divine, un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible. Ensemencer les villages d'évangiles, une Bible par cabane. » Abraham Lincoln, un grand président américain, a dit « Je crois que la Bible est le meilleur cadeau jamais offert par Dieu aux hommes. Tout le bien du Sauveur du monde nous est communiqué par ce livre. » Jean Jaurès, le tribun socialiste, a dit « La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations irritées et de la nature elle-même. » Finalement, Albert Einstein a dit « Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité vibre dans chaque mot. Aucun mythe ne peut contenir une telle présence vivante. » Et on pourrait multiplier ainsi les citations. Les grands hommes du passé ont tous reconnu l'influence capitale de la Bible dans l'histoire du monde. La Bible il était recommandé au peuple hébreu de se réunir tous les 7 ans dans le Deutéronome pour entendre la lecture de la parole de Dieu. À l'époque, ça représentait bien sûr seulement les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle la Torah ou le Pentateuch. Et il est dit qu'en fait, c'était pour que ces hommes découvrent la crainte, la peur de l'Éternel. Et il est dit, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'ils l'entendent. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'immigrant qui résidera avec toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et donc l'idée, c'était que la lecture de la parole de Dieu, ça enseignait la crainte, le respect de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, nous savons par ailleurs que dans la Bible, il est expliqué que c'est le commencement de la sagesse. Souvent, on aimerait bien prendre de bonnes décisions, de sages décisions. À chaque instant, nous sommes amenés à prendre des décisions. On aimerait avoir la sagesse. La Bible nous dit que cette sagesse, elle vient de la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui prolonge les jours, qui donne la vie en abondance. Elle est une source de vie. Elle enseigne la sagesse. Elle mène à la vie. La crainte de l'Éternel, il est dit dans Proverbes 22:4, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors on va pas lire toute la Torah. On a un projet de lire peut-être des passages bibliques en public pendant cette année, peut-être devant Nice Étoile. On avait essayé de demander l'autorisation il y a 2 ans de lire les évangiles pendant une journée ou 2 jours en se relayant, pour que les gens se disent il y a ce livre qu'on a oublié. Mais une chose est sûre, c'est que nos contemporains ignorent la Bible. Peut-être que même parmi nous, il y en a qui la connaissent très mal. Et même ceux qui pensent la connaître bien, ils la connaissent encore bien peu par rapport à ce que le Seigneur voudrait qu'ils connaissent. Lorsque nous demandons aux étudiants, nous faisons des sondages auprès des jeunes, auprès des étudiants ou des gens dans la rue, on découvre en fait qu'ils n'ont aucune idée de ce que veut dire l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile ? Ah, c'est le truc à l'église, ils savent peut-être Jésus, mais formuler de façon concise l'Évangile, savoir ce que Dieu veut nous dire, ça, ils ignorent. Et justement, on en a parlé ce week-end au culte en commun. Cette année, il y a plutôt en octobre 2001, des églises protestantes de France, toutes tendances confondues, s'étaient réunies en congrès pour un thème qui était « Évangéliser la France ensemble ». Et l'aboutissement de cette conférence, d'abord, ça a été le pardon entre différentes dénominations. Parce que les pentecôtistes pensent que les réformés sont des chloroformés, les réformés pensent que les pentecôtistes sont des fanatiques, et ainsi de suite. Et Calvary Chapel pense qu'ils sont les seuls à avoir la vérité. Et donc, il y a beaucoup de pardon qui doit prendre place avant que le Seigneur puisse nous utiliser tous ensemble. Et un aboutissement donc de ce congrès, ça a été cette idée d'une année de la Bible en France pour 2003. Ça s'était déjà passé en Allemagne en 1993. Et cette année, ça va se passer en Allemagne encore, en Autriche, en Belgique, en France et en Suisse. Et l'idée, c'est de mettre les pieds dans le plat, de mettre la Bible au centre de la société, de leur dire, voici cette Bible que vous critiquez sans jamais l'avoir ouverte, nous voulons vous en parler. Elle est le fondement de la culture occidentale. On parle des fois des valeurs judéo-chrétiennes, comme c'est un type de valeur. Il peut y avoir les valeurs de Confucius, il peut y avoir les valeurs bouddhistes, et on pourrait... Non, en fait, ça fait partie intégrante de notre société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fac de lettres, il y a des cours bibliques pour que les étudiants, quand ils étudient les grands classiques français, connaissent un peu des références bibliques. Parce que si vous prenez les grandes œuvres de notre littérature, je dirais 80% font, ou peut-être pas autant, mais 70% font appel à cet arrière-plan biblique. Il y a eu un sondage fait par la Sofres pour le quotidien La Croix en 2001. Et dans ce sondage, on demandait aux gens quelle était la place de la Bible, d'abord dans le patrimoine religieux de l'humanité. Dans le patrimoine religieux, il y a 64% des gens qui disaient qu'en fait la Bible est assez importante jusqu'à très importante. Dans le patrimoine culturel de l'humanité, là aussi, une majorité à 62% reconnaissait que c'était très important. Par contre, quand on demandait quelle est la place de la Bible dans votre vie personnelle, alors là, c'était peu important ou pas du tout pour 70% des Français interrogés. On leur demandait, pour vous, qu'est-ce que c'est que la Bible ? La majorité disait, c'est un livre dépassé, en décalage avec le monde moderne. Et il n'y en avait que 38% qui disaient qu'il y avait des enseignements toujours actuels. Parmi les Français, les foyers français, il y en a 58% qui n'ont pas de Bible. Il y en a 72% des Français qui ne lisent jamais la Bible. 44% des Français qui ont une Bible chez eux ne l'ouvrent jamais. Ne l'ont jamais ouverte. C'était peut-être un cadeau par un ami évangélique ou protestant ou catholique. Et une chose intéressante, c'est que parmi ceux qui lisent la Bible, il n'y en a que 24%, donc un quart de ceux qui lisent la Bible, qui le font dans un lieu de culte, qui se réunissent pour lire la Bible ensemble, comme nous le faisons ce soir. Et donc, la tâche est vaste de remettre la Bible sous le nez de nos contemporains. Les protestants en France, là encore, toutes tendances confondues, de l'extrême droite à l'extrême gauche, je vous laisserai deviner où est la droite, où est la gauche, ça c'est pas à moi de le dire, mais je veux dire tout l'éventail protestant, en incluant tout le monde, ça représente seulement 3500 églises en France. On vous dirait 3500, c'est beaucoup, mais ça correspond à 400 000 personnes au maximum. La taille moyenne d'une église en France, une église, c'est 15 à 20 personnes. On est déjà une grande église le dimanche, même si on n'est pas nombreux. Il y a quelques églises, comme l'église des Assemblées de Dieu d'Antibes, où il y a près de 600, celle de Cimiez, où il y a près de 400. Donc c'est possible d'avoir des grandes églises en France. Ce n'est pas seulement aux États-Unis. Mais il faut être convaincu qu'on a un message à donner aux autres. Cette campagne, elle va se dérouler en deux phases. Les premiers 6 mois, ça va être consacré à la Bible dans les églises locales. Vous avez l'habitude de ce que le centre de notre réunion, c'est en fait l'étude de la Bible, un passage que l'on commande, sur lequel on réfléchit ensemble. Mais il y a des églises dans lesquelles la Bible, c'est le prétexte pour prendre un verset, et puis on discute de philosophie, de psychologie, de politique. Mais on ne se laisse pas guider par le texte biblique. Donc c'est dans ce cadre qu'on a dit, tiens, on va faire un survol de la Bible pour voir comment ça s'articule et avoir une idée d'ensemble. C'est vrai que le dimanche, on lit quelques versets, un chapitre, à la fois, et on progresse, mais on prend des fois 6 mois pour faire un livre. Là, on va pouvoir avoir une meilleure idée rapidement. On va donc encourager les églises vont être encouragées, hein, c'est pas moi qui le fais, à faire des études bibliques, à apprendre aux gens à témoigner de leur foi, à évangéliser. Et puis, il y aura une campagne de communication nationale au deuxième semestre sur le thème qui donc c'est « Chercher et trouver ». Et l'idée, c'est de faire une campagne médiatique comme les professionnels des médias, avec des grandes affiches. Il y aura à peu près 3500 panneaux d'affichage grand format dans 55 villes pendant une semaine, des spots radio pendant une semaine, des insertions publicitaires dans les journaux, dans des hebdomadaires à diffusion nationale. Donc l'idée, c'est de remettre la Bible devant le nez de nos contemporains et de leur dire que cette Bible, elle a des choses à dire à l'homme moderne. Et demain, nous avons une réunion en pastorale et nous allons envisager quelques actions communes sur Nice. On parle peut-être d'un festival du film biblique. On parle de concerts, comme le concert qu'on a eu avec New Gospel. On parle de faire, il y a dans les archives niçoises des vieilles Bibles, des vieux évangiles qu'on pourrait montrer au public et faire une exposition biblique racontant un peu la chronologie, la formation, comment la Bible nous est parvenue. Le musée Matisse, c'est le musée, ça s'appelle le musée national du message biblique. On est en train de se demander comment on pourrait mettre en valeur ce musée pendant la campagne. On va aussi avoir à très bon marché des cadeaux à faire à vos amis, à vos voisins. Ça comprendra le film Jésus avec un Nouveau Testament et un livre expliquant comment lire la Bible, comment lire le texte. Et ça sera un très beau petit cadeau et qui est fait à prix coûtant par les organisations françaises comme l'Alliance biblique universelle, la Société biblique française. Et un paquet comme ça reviendra à 4 euros. Donc on en a commandé une cinquantaine, on en commandera davantage. Mais sachez que pour 4 euros, vous pouvez faire un cadeau à votre voisin, dans votre famille. Et ça, vraiment, l'idée, c'est pas de faire de l'argent, bien sûr. À 4 euros pour une vidéo, ça paye à peine le support magnétique. Mais ça part d'une volonté de dire, attendez, où allons-nous ? Revenons à nos racines, revenons à la source de la sagesse devant Dieu, à la Bible. La Bible, elle est unique. Et on l'a dit, elle est unique à bien des titres. D'abord, elle est unique dans son harmonie. Vous savez peut-être que la Bible, elle a été écrite pendant une période de 1500 à 1600 ans. Ça a commencé vers 1500 avant Jésus-Christ. Les derniers livres écrits dans le Nouveau Testament, les épîtres ont été écrites vers le milieu et la fin du premier siècle de notre ère. Donc c'était un moment où il y avait encore des témoins oculaires de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais si on imagine que vous écrivez un livre sur 1500 ans, on s'attendrait à ce que ce soit un peu fouillis à la fin. Elle a été écrite sur plus de 40 générations. Donc c'est pas mon grand-père, mais c'est l'arrière-grand-père de mon arrière. 40 générations, ça fait beaucoup de monde. Elle a été écrite physiquement par 40 auteurs, par 40 personnes différentes de toutes les conditions sociales. Il y avait des rois comme le roi David, des paysans comme Amos, des philosophes, on pourrait dire des théologiens comme l'apôtre Paul, un pêcheur comme Pierre, un médecin comme Luc. Toutes les conditions sociales étaient représentées. Matthieu, c'était un inspecteur des impôts. Néhémie, c'était un fonctionnaire qui était payé pour boire, parce qu'il était l'échanson du roi, donc il devait goûter le vin du roi. Ça a été donc écrit par des chefs politiques, un général, Josué, par un chef politique comme Moïse, qui avait été formé à l'ENA de l'Égypte. Il avait reçu la meilleure éducation possible auprès du pharaon égyptien. Ça a été écrit dans toutes sortes d'endroits, pas seulement devant un ordinateur bien tranquille avec une bonne tasse de café. Moïse a écrit dans le désert, Jérémie a écrit dans un donjon, Daniel a écrit dans un palais, Paul a écrit des lettres en prison, Luc était en voyage, il devait avoir un petit carnet, là il racontait ce qu'il voyait, Jean était en exil à Patmos, non seulement dans toutes sortes d'endroits, mais sur trois continents, l'Asie mineure, l'Afrique, l'Égypte, l'Europe, la Grèce, la Rome, etc. Ça a été écrit en trois langues, l'hébreu, l'araméen, qui était l'hébreu que l'on parlait au temps de Jésus en Palestine, et en grec. La Bible, c'est en fait une collection de livres, il y a 66 livres qui la composent. Elle traite de centaines de sujets très controversés. Mais il y a une grande harmonie dans tous ces sujets. J'ai oublié de dire qu'elle a des genres littéraires très variés. Il y a de l'histoire, des annales historiques, il y a de la poésie, il y a des paraboles, il y a des biographies, il y a des lettres, les fameuses lettres de Paul, il y a des prophéties. Donc on voit qu'il y a une grande variété, mais encore une fois, il y a une unité qui est surprenante. Lors de repas, peut-être que vous êtes amusé ou de réunions, vous avez joué au téléphone. Ici, on appelait ça, à mon époque, on appelait ça le téléphone arabe. Maintenant, on utilise peut-être un autre terme. Mais l'idée, c'était que si on était autour d'une table, on chuchotait à l'oreille du voisin de droite un message, une phrase. La personne à notre droite la répétait à la personne à sa droite. Et on attendait que ça fasse le tour de la table. Et plus il y avait de monde, et plus c'était drôle. Parce que quand le message arrivait, retourné à l'expéditeur, et qu'on disait « Alors, quel est le message ?» C'était en général quelque chose de complètement farfelu, complètement différent. Et ça, c'était dans un même endroit, avec des personnes qui parlent la même langue, en quelques instants. Et là, pour que l'unité de la Bible ait été respectée, on se dit qu'elle a quelque chose de vraiment spécial. Quand on lit la Bible, par exemple, on peut se demander qui est Dieu, comment est-ce qu'il est. Pour le Coran, Dieu est un Dieu puissant, mais c'est un Dieu lointain, un Dieu dont on n'est jamais sûr s'il va nous accepter ou nous rejeter. La Bible, elle dit que dès l'Exode, que l'Éternel est un Dieu compatissant, qui fait grâce, qui est lent à la colère, qui est riche en bienveillance et en fidélité. Ça, on le trouve dans l'Exode, on le trouve dans le livre des Nombres, on le trouve dans Néhémie, dans le psaume 86, dans le psaume 103, dans le psaume 145, dans Jonas, et on pourrait continuer comme ça. Ce sont des sujets qui reviennent et qui ne sont pas transformés. Et c'est d'autant plus important qu'on réalise que ça n'a pas été écrit à la même époque, par le même genre de personnes, pas dans la même langue, pas dans des personnes qui avaient des styles de vie complètement différents. Parce que, en fait, il y a un seul thème dans la Bible, et ce thème, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est présent dans tous les livres de la Bible. Et lorsque, je le dis souvent, mais je le répète, lorsque vous lisez la Bible, dites-vous, où est Jésus-Christ dans ce passage? Où est-ce qu'il est? Dans la Genèse, il est le Dieu créateur. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le ciel, les cieux et la terre. C'est Dieu, c'est déjà Elohim, c'est le pluriel de Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. dans Josué, il est comme Josué, c'est une image de Jésus, par exemple, il est le conquérant puissant. Dans le livre de Ruth, il est notre rédempteur, notre amoureux, notre parent, proche parent. Et on pourrait multiplier les exemples, faire la liste de tous les livres, et si ça vous intéresse, je peux vous passer cette liste. Dans Ésaïe, il est le conseiller puissant, le prince de paix, le Père éternel. Dans Matthieu, pour passer au Nouveau Testament, il est le roi des Juifs. Dans Marc, il est le serviteur. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est le fils de Dieu. Dans Romains, que nous étudions le dimanche, il est la justice de Dieu. Dans 1 Corinthiens, il est le rocher qui suivait Israël. Et dans l'Apocalypse, il est le roi qui revient. Vous avez peut-être entendu parler du mot concordance, qui désigne une espèce de dictionnaire qui, pour chaque mot auquel vous pouvez penser, qui est présent dans la Bible, vous donne tous les passages où ce mot est utilisé dans la Bible. C'est un outil très intéressant. Et on peut remercier les hommes du passé qui ont pris le temps de faire ça à la main. Ils prenaient le premier mot, au comme « o », et puis ils allaient lire dans toute la Bible et ils notaient les passages où le mot était trouvé. Ça, c'était avant Excel et avant l'ordinateur. Ils prenaient « commencement », ils lisaient la Bible et ils cherchaient tous les passages où ce mot se trouvait. Ce qui est intéressant, c'est une petite anecdote, mais en russe, ce mot se traduit par symphonia, ce qui veut dire une symphonie. Et je trouve que c'est une belle image que la Bible est orchestrée par Dieu et tous ces mots qui pourraient paraître être des mots rassemblés un peu au hasard, en fait, ça forme comme une symphonie. La Bible, c'est un livre unique non seulement dans son unité, mais dans sa diffusion. Il n'y a aucun autre livre qui a été lu par autant d'hommes et de femmes, même si le Coran essaye d'imprimer beaucoup et se répand beaucoup en ce moment, ça n'a rien à voir, j'ai pas les chiffres malheureusement. Entre 1815 et 1910, en moins de 100 ans, on a des chiffres, on dit qu'il y a eu plus de 2,5 milliards de Bibles distribuées dans le monde. Aujourd'hui, j'ai des chiffres pour 98. Dimanche dernier, le pasteur Marconi en a cité qui était un peu plus ancien. Il se publie 21 millions de Bibles par an. Ça fait près de 57 000 Bibles par jour, 2400 à l'heure. Ça veut dire que deux Bibles sont imprimées toutes les 3 secondes, ou chaque seconde et demie, il y a une Bible qui est imprimée. En 1998, il y a eu plus de 585 millions d'éditions bibliques. Alors, ce n'est pas seulement les Bibles, c'est aussi les livres. Ça fait 23 qui parlent de la Bible. Et localement, hein, puisque j'ai l'occasion de travailler à la librairie La Bible, qui se trouve boulevard Thiers, le nombre de Bibles vendues, ça oscille entre 900 et 1200 suivant les années. Ça fait à peu près 4 Bibles vendues par jour où le magasin est ouvert. Il y a 400 Nouveaux Testaments par an, 3500 Évangiles, 10 000 traités, 2000 calendriers. Ces calendriers avec les petites choses, ça se vend. Tout ça pour dire, en fait, la Bible, elle est loin d'être enveilleuse. Et c'est vrai que ces chiffres... Elle se diffuse davantage dans certaines régions du monde qu'en Europe, en Afrique, dans le continent asiatique, en Chine. Pendant longtemps, ces pays on ne pouvait pas publier la Bible là-bas. Et il y a une demande qui, si vous voulez faire un cadeau, pour 50 euros, vous pouvez peut-être bénir une centaine de personnes en Chine qui vont enfin avoir leur propre copie de la Bible. La Bible est unique dans sa traduction. On a traduit les aventures de Tintin, en 50 langues, en breton, en basque, etc. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Il y a 383 langues à la date de l'an 2000. En l'an 2000, il y en a plus maintenant, mais il y avait 383 langues où la Bible était traduite complètement. Il y avait eu, ça faisait, par rapport à l'an d'avant, ça faisait 13 langues de plus. Il y a plus de 800 langues qui ont le Nouveau Testament. Et il y a 2261 langues qui ont au moins un livre de la Bible traduit dans cette langue. Et c'est sans compter qu'il y a des traducteurs qui continuent à traduire la Bible en 3000 autres langues ou dialectes. Alors souvent, c'est pour des populations très petites, très restreintes, mais souvent, les gens, quand ils réalisent que Dieu leur parle dans leur langue, ils sont vraiment touchés de voir que Dieu prend le temps d'inspirer des gens qui vont sacrifier leur vie, entre guillemets, qui vont aller vivre au fin fond de l'Irianjaya, à Bornéo, pour apprendre la langue, la mettre par écrit, traduire la langue. On a de bons amis, de très proches amis qui font ça au Tibet, en Chine communiste, qui traduisent la Bible en tibétain, une particularité du tibétain, l'amdo-tibétain. C'est formidable de voir quand il nous écrit qu'ils viennent de terminer une première version de l'évangile de Marc, que c'est en train d'être lu secrètement par plusieurs tibétains qui corrigent. Il y a des gens qui travaillent. Et la Bible est le livre le plus traduit au monde. La Bible est unique dans sa transmission. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas avant qu'on invente la presse, que Gutenberg imprime la première Bible en 1436 à peu près, sur une presse à caractère mobile, il fallait copier à la main, recopier à la main. Et bien sûr, les supports se dégradaient. Il fallait déchirer, il fallait recopier. Et en fait, c'est un long processus de copie qui nous est parvenu. Alors, l'attaque des musulmans, c'est de dire que la Bible a été falsifiée. Parce que leur Coran reconnaît la valeur des Injils, l'évangile. Mais ils disent l'évangile pur, oui, mais celui que vous avez, c'est pas le bon. Alors là, quand ils vous disent ça, il faut leur presser un peu et leur dire qu'ils expliquent, parce qu'en fait, c'est une réponse qu'on leur apprend pour diffuser, plutôt pour résister à la Bible. Il y a des livres auxquels ils ne viendraient jamais à personne l'idée de. Personne n'aurait jamais l'idée de contester leur origine antique, par exemple l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et pourtant, on a en notre possession aujourd'hui que 5 ou 6 copies partielles de ces livres. Pour la Bible, il y a plus de 23 000 manuscrits, alors des portions de manuscrits aussi, qui affirment l'historicité de la Bible, que ce n'est pas un livre qui a été inventé il y a 200 ans. Et non, c'est un livre absolument historique, et dont l'historicité est garantie plus qu'aucun autre livre au monde. Il y avait des gens parmi les juifs, les Masorètes, dont la vie, le travail, c'était un ministère, c'était de copier le texte. Et ils utilisaient des méthodes qu'on utilise maintenant dans la transmission des données. En informatique, lorsqu'on envoie des données par Internet, il y a des codes, il y a des façons de s'assurer que le message qu'on envoie n'est pas déformé quand on le reçoit à l'arrivée. Alors on peut compter par exemple le nombre de caractères qui ont été envoyés au départ, et puis on envoie avec ça, j'envoie une lettre, il y a 140 caractères. Quand je reçois la lettre, je compte et je vois qu'il y a 140 caractères, c'est bon. Il y a aussi des codes de parité. On voit si le nombre est pair ou impair, le nombre de lettres. Et en fait, ils faisaient un peu la même chose à l'époque. Ils comptaient, lorsqu'ils avaient écrit ils avaient une page à copier, ils comptaient le nombre de lettres. Ils recopiaient, ils avaient le nombre de départ. Ils comptaient pour voir le nombre de lettres à l'arrivée. S'il y avait une différence, ils déchiraient le travail qu'ils avaient fait et recommençaient. Et grâce à ce travail de, inspiré par Dieu, vraiment plein de respect, qui faisait dans la crainte de Dieu, on a eu des textes qui sont très proches de l'original. On n'a pas les originaux des textes bibliques. Je crois que Dieu ne nous les a pas donnés parce qu'on aurait tendance, nous, on a, l'homme a tendance à faire des idoles. On aurait des endroits où on irait adorer, on se mettrait à genoux devant le texte. Et bien plus important qu'on ait le logiciel que le matériel, que le hardware. Et on a pu vérifier la qualité de la transmission. En 1947, dans les années 53-54, on a trouvé dans les grottes de Qumran en Israël, on a trouvé des manuscrits anciens qui... les plus anciens manuscrits qu'on avait en hébreu dataient de l'an 900. Là, on a retrouvé des textes qui datent de avant Jésus-Christ, 150 ans avant Jésus-Christ, et on a pu comparer le texte qui existait 150 ans avant Jésus-Christ avec le texte qu'on avait reçu 800-900 ans plus tard. Et il n'y a pratiquement pas de différence. Il y a peut-être quelques caractères qui ont un peu changé, mais le sens du message n'a pas varié d'un poil. Et ça, cette découverte, elle a été formidable parce qu'elle nous a montré que le texte que nous avons, des hommes avaient vécu pour qu'on le transmette fidèlement. La Bible a résisté aux persécutions. Il y avait un empereur romain Dioclétien qui voulait brûler toutes les écritures, toutes les copies qui existaient à l'époque. 25 ans plus tard, il y avait l'empereur Constantin qui devenait chrétien et qui faisait écrire aux frais du gouvernement romain 50 Bibles. Voltaire, qui disait que l'horloge l'embêtait parce qu'il ne pouvait pas concevoir qu'il y ait une horloge sans horloger, même s'il refusait de croire au Dieu de la Bible. Il avait, lui, dit que dans 100 ans après sa mort, il n'y aurait plus une seule Bible sur la terre. 50 ans après sa mort, la Société biblique de Genève rachetait sa maison à Ferney, en Suisse, pour y imprimer et entreposer des tonnes de Bibles. Jean-Paul Sartre a grandi au château de Saint-Albin, où il allait en vacances. C'est maintenant le siège des éditions Clés qui produisent des Bibles et des Bibles sur CD. Une des critiques, c'était que Moïse n'avait pas pu écrire la Torah parce que l'écriture n'existait pas. Depuis, on a trouvé qu'il y avait l'écriture cunéiforme qui datait bien d'avant Moïse. Et donc, la Bible a résisté contre vents et marées. La Bible, elle est aussi un livre unique dans la façon dont Dieu l'a authentifiée. On vit dans un monde à trois dimensions, c'est le largeur, hauteur, longueur. Puis on a réalisé qu'il y avait le temps. Et on vit dans cet univers de trois dimensions. Et en fait, la Bible nous indique qu'il y a d'autres dimensions. On a un problème parce que dès qu'on découvre les mathématiques à l'école, le professeur prend une craie et fait une ligne horizontale sur le tableau, noir, vert, ou peut-être avec un marqueur sur un tableau blanc. Et puis à gauche, il y a le début de l'événement, la naissance du grand homme. Et puis à droite, il y a la fin de cet événement, de cette période où la mort du grand homme. Et puis, en voyant cette ligne, on se dit, bon, ben, l'infini, c'est facile, c'est si on continue la ligne, tout au bout, alors on fait un petit signe, on fait un 8 couché, c'est l'infini, moins l'infini, plus l'infini, et on a cette vision de l'infinité. Et on se dit, l'éternité, c'est le temps qui commence là-bas et qui commence là, jusqu'à plus l'infini. Il y a Woody Allen qui nous fait sourire quand il dit que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Mais en fait, l'éternité, ça n'a rien à voir avec avoir beaucoup de temps. En fait, l'éternité, c'est être en dehors de la dimension du temps. Nous, on voit la vie comme une succession d'événements, une succession linéaire d'événements. Et je vous ai déjà partagé cette analogie que si on est en train de regarder le Tour de France sur le bord de la route, le passé, c'est le gars qui est passé il y a 5 minutes, qui est devant peut-être, toujours en tête. Le présent, c'est le gars qui est sur son vélo que je peux voir tout de suite. Et le futur, c'est la personne qui n'est pas encore arrivée, là, qui a 10 minutes de retard là, dans la montée du col. Ça, c'est la façon dont je vois le temps. Mais si je m'abstrais de cette dimension plane et que je vais en troisième dimension, que je monte dans un hélicoptère et que je vais voir avec la caméra de la télé, je vais voir en fait le gars qui monte le col, le gars qui passe et le gars qui redescend le col. En même temps, je vais être en dehors de cette dimension plane, je vais voir tout l'ensemble. Et Dieu, en fait, on a découvert par la physique moderne que le temps est une propriété physique. On pensait avant que c'était quelque chose d'absolu, que le temps c'était quelque chose d'immuable qui s'écoulait à un rythme donné. On sait depuis que le temps c'est une propriété physique qui est fonction de la masse, de l'accélération de la gravité. À votre avis, est-ce que Dieu est fonction de la masse, de l'accélération ou de la gravité? Bien sûr que non, Dieu n'a pas de propriété physique. Dieu est esprit et vérité. Et donc, il y a même un passage qui dit que Dieu habite l'éternité. Ésaïe 57,15. Ésaïe dit qu'en fait, Dieu est en dehors du temps. Ce n'est pas qu'il a plus de temps que nous. Et ça explique, entre parenthèses, le problème qu'ont certains avec la prédestination. La Bible nous enseigne que l'homme est libre de choisir à tout moment. Et puis la Bible nous dit que Dieu a choisi de toute éternité ceux qui allaient être ses enfants. On dit alors, il nous laisse le choix, mais il a déjà décidé. C'est pas juste ça. Et ce dilemme apparent, il est résolu si on réalise qu'en fait Dieu, il est omniscient, il voit à chaque instant les choix que nous allons faire. Et les choix qui mènent à lui, il sait que c'est nous qui lui appartenons. Dieu qui habite en dehors du temps veut authentifier son message. On a besoin d'authentifier le message. Pas plus tard que ce week-end, j'avais un problème parce qu'on avait, j'avais imprimé des invitations gratuites qu'on avait remis à une station de radio, Radio Nostalgie, qui les offrait à des auditeurs. Et j'avais fait quelque chose en couleur qui n'était pas facile à copier. Mais en fait, quelqu'un pouvait aller prendre ça et faire 10 copies sur une bonne photocopieuse en couleur. Et on serait retrouvé avec plus de places gratuites qu'on avait prévu de donner. Alors j'ai appelé la station de radio qui a dit oui, d'habitude on fait quelque chose de mieux, on les signe au dos. C'est déjà un peu plus compliqué, il faut contrefaire aussi la signature. Une autre idée, c'est de les numéroter. La FNAC, eux, ils ont résolu le problème. Ils mettent comme sur les billets en euros, ils mettent une petite barre métallique qui fait que si on essaye de les photocopier, ça renvoie la lumière, ça fait une tache noire, donc c'est plus difficile à contrefaire. Et Dieu, il s'est dit, je veux que ces gens reçoivent mon message et qu'ils savent que c'est moi qui parle. Que c'est pas les témoins de Jéhovah qui ont imaginé un texte qui leur convient, ou les mormons qui ont prétendument trouvé un livre dans la forêt qui demandait des lunettes spéciales. Ils savaient qu'il allait avoir toutes ces choses. Donc Dieu voulait identifier son message et il s'est dit, le fait que j'habite en dehors du temps me permet d'authentifier mon message. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Dieu voit ce qui va se passer, il nous dit voilà ce qui va se passer. Quand ça arrive, on dit waouh. Il le dit même dans Ésaïe 46:10, il dit j'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mon projet tiendra bon. Et j'exécuterai tout ce que je désire. Livre spirituel de la planète. Aucun autre livre n'a des prophéties annoncées qui sont déjà accomplies, certaines restent à accomplir. Et la Bible elle-même dit que c'est pas par une volonté humaine que ces prophéties ont été présentées, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible, elle est inspirée par Dieu. Elle a été, nous dit Paul, dans de Corinthiens 3,16, que la Bible est donnée, expirée, soufflée par Dieu, théopneustos. Et il n'appartient pas aux hommes de dire, tiens, on va faire une nouvelle prophétie, on va raconter des histoires. Non, toutes les prophéties qui sont dans la Bible, c'est Dieu qui les y a mises. Il les a mises, encore une fois, pour qu'on reconnaisse que cet ensemble de livres qu'il a préservé, c'est lui qui a fait tout ce travail de préservation, de transmission, pour que nous l'ayons en notre possession. Il l'a fait pour qu'on sache que le message, c'est son message à lui. Et lorsqu'on est convaincu que la Bible, c'est le message de Dieu, ça change notre vie. C'est plus un livre qu'on lit pour avoir des idées poétiques ou avoir des encouragements, comme on lirait un poème de Victor Hugo qui pourrait nous encourager, nous faire du bien. Non, c'est Dieu qui nous parle. On a déjà parlé des prophéties depuis un an. Vous vous souvenez qu'on avait dit que il y avait près de 300 prophéties concernant Jésus-Christ dans la Bible. 360. Il y a plus d'un millier de prophéties diverses dans la Bible. Et prenons par exemple dans le cas de Jésus, on sait que le prophète Michée disait qu'il allait naître à Bethléem. Matthieu nous dit qu'il est bien né là. On nous dit qu'il allait, Ésaïe nous dit qu'il allait être précédé d'un messager. Matthieu nous dit qu'il y avait Jean-Baptiste qui est venu avant lui. Zacharie nous dit qu'il devait monter à Jérusalem, entrer à Jérusalem assis sur un âne. Luc 19 nous explique qu'il est effectivement monté sur un âne. Alors peut-être vous vous dites, oui mais ça c'est facile, il suffisait de lire la prophétie, de dire, bon, il me faut que je trouve un âne, va me chercher un âne, et d'accord, je vous l'accorde, il aurait pu essayer de manipuler l'accomplissement de la prophétie. Il est dit dans le psaume 41 qu'il allait être trahi par un ami. Matthieu nous dit, au chapitre 26, versets 47-48, qu'il a été trahi par Judas. Ça, c'est déjà moins difficile à manipuler. Il a été trahi pour 30 pièces d'argent. Là, c'est plus difficile aussi à manipuler. Il a gardé le silence devant ses accusateurs. Il aurait peut-être pu dire, je ne vais rien dire, comme ça j'accomplirai une prophétie de plus. Mais on sait qu'il a souffert beaucoup. Ses vêtements ont été tirés au sort. Ça, c'est le psaume 22 qui en parle. Jean 19 qui parle de l'accomplissement. Aucun os n'a été brisé. Psaume 34. Jean 19 nous dit qu'ils ne lui ont pas cassé les jambes comme aux autres brigands pour qu'il meure, parce qu'il était déjà mort. Qu'il serait enterré dans la tombe d'un riche. Ça, c'est Ésaïe 53. La date de son entrée triomphale à Jérusalem. On en a parlé dans la prophétie de Daniel 9. Le psaume 22 disait qu'il allait être crucifié, alors que la crucifixion n'existait pas à l'époque où le psaume 22 a été écrit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, si on prend une personne au hasard dans l'histoire de l'humanité, quelles sont les chances que cette personne remplisse ses prophéties ? Et des mathématiciens, Peter Stoner a fait une petite analyse statistique. Il a dit, on va prendre une personne au hasard sur la planète, dans l'histoire, quelles sont les chances que cette personne naisse à Bethléem en Judée? Alors c'est sûr qu'on prend la population de la ville, je ne sais pas s'il y a 5000 habitants, la population à l'époque, je ne sais pas, c'était peut-être un milliard d'habitants à l'époque où il a fait ça, et donc il a dit pour qu'une personne prise au hasard sur la Terre soit né à Bethléem, il y a peut-être une chance sur 100 000. Pour qu'elle ait été trahie par un ami, ça c'est quelque chose qui est peut-être fréquent, vous avez peut-être déjà été trahi par un ami dans votre vie. Il a dit, on va prendre une chance sur 5. Pour qu'il soit trahi pour 30 pièces d'argent, ça c'est déjà moins fréquent. Alors il a dit, on va dire, une chance sur 50, et ainsi de suite. Et en prenant seulement 8 prophéties dont on vient de parler, il s'est dit, à chaque fois, la probabilité que la personne remplisse toutes ses prophéties diminue. Parce que parmi les gens nés à Bethléem, ceux qui ont été trahis par un ami, c'est pas tout le monde. On a dit que 1 sur 5. Donc ça réduit la population. Et pour seulement 8 prophéties, il a trouvé que la probabilité, c'était 1 sur 10 à la puissance 17. C'est-à-dire 1 sur 10 avec 17 zéros. Si on pouvait gagner ça au loto, on pourrait acheter le pâté de maison. Au moins. Qu'est-ce que c'est que 1 sur 10 à la puissance 17? C'est vrai qu'on a du mal. Même je suis sûr Sébastien qui a fait des maths, Rémi, ceux qui ont fait des maths, 10 à la puissance 17. Quelqu'un a essayé de trouver un équivalent. Et en disant, supposez que sur tout le territoire français, on mette une épaisseur de 50 cm de pièces de 2 euros. On va parler en euros. La France est recouverte partout d'une épaisseur de 2 pièces de 2 euros sur 50 cm de profondeur, de hauteur. Je prends mon marqueur, je prends une pièce au hasard, je fais une croix rouge sur cette pièce, et je la remets, je recache un peu. Et puis j'amène quelqu'un, il a le droit de prendre un hélicoptère, de dire au pilote de se poser où il veut. Il est les yeux bandés, il arrive, il atterrit sur un bruit de pièces de 2 euros. Et au hasard, il tourne un peu, il prend une pièce, il cherche un peu pour voir la chance pour que la pièce qu'il prenne soit 1 sur 10 à la puissance 17. Soit la bonne, c'est 1 sur 10 à la puissance 17. C'est quasiment impossible. Ça, c'était seulement pour 17 prophéties. Si on prend, 8 prophéties, si on en prend 17, là, il arrivait à 10 suivi de 32 zéros. Il avait même poursuivi ses calculs, toujours en prenant des hypothèses qu'on peut contester, mais ça nous donne quand même des ordres de grandeur. Sur 48 prophéties, c'était 1 sur 10 suivi de 156 zéros. Pour plus de 300 prophéties qui se sont réalisées, c'est absolument impossible que ce soit par hasard. Et ça, c'est pas pour dire waouh, c'est formidable le calcul des probabilités. C'est Dieu qui est en dehors du temps, qui signe son livre. Il veut que tous nous sachions que la Bible, c'est son message pour l'homme. C'est pas un message qui a été fait par Tyndall, par Martin Luther, par Billy Graham. La Bible, c'est le message de Dieu. On sait qu'il y a une harmonie dans la Bible. Le Nouveau Testament, il est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. C'est vrai, on en parlait avec Thierry, que quand on commence à lire, on préfère lire le Nouveau Testament parce que c'est plus parlant, on voit des émotions, on est moins loin dans le temps, on ne parle pas de vieilles coutumes antiques dans un pays qu'on ne connaît pas. On voit des gens qui souffrent, on voit des pauvres, on voit des femmes prises en adultère, on voit quelqu'un qui les aime, qui les soutient. Mais en fait, il faut prendre l'ensemble parce que c'est tout le message que Dieu nous a envoyé. Dès le départ, il nous a donné ce qu'on appelle un évangile en ébauche lorsqu'il a dit au diable, je mettrai l'inimitié, la bataille entre toi et la femme, entre ta descendance, les enfants du diable, et sa descendance à elle. Celle-ci t'écrasera la tête, parlant de la descendance de la femme, de Jésus-Christ qui allait se faire homme, qui allait venir écraser la tête de Satan, même si Satan avait écrasé le talon de Jésus par la croix. Le fait que Jésus ait dû mourir, c'était quand même quelque part, le diable devait se réjouir de voir le Fils de Dieu avoir à souffrir pour racheter le péché des hommes, mais il ne pensait pas que Jésus allait ressusciter. L'évangile, on l'a vu dans le chapitre 5 de la Genèse. Une liste de généalogies qui nous barbe en général, les généalogies. Un tel a engendré un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Bon, d'accord, voyons, on passe rapidement à la fin. Et la Genèse 5, si on prend la liste des noms, je vous l'ai déjà dit ça pour ceux qui étaient là l'an dernier, la liste des noms de ces personnes qui se sont succédées, c'est déjà le message de l'évangile. Adam, ça veut dire homme. Seth, c'était réservé. Enoch, c'est mortel. Kenan, chagrin. Mahalalel, Dieu béni. Et ainsi de suite, on arrive à un message qui dit « À l'homme est réservé un chagrin mortel, mais le Dieu béni viendra d'en haut, enseignant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos, consolation. » Dès le départ, Dieu veut nous dire qu'il y a de l'espoir. Récemment, et ça a causé pas mal de sensationnel, il y a des livres qui ont été publiés, et c'est pas là-dessus que je base ma foi, mais les gens ont commencé à parler de codes secrets cachés dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il y a un rabbin au XIVe siècle, Rabbeinu Bashaya, qui parlait de codes, de schémas de lettres encodés dans la Torah. Et au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, il y a un autre rabbin, Michael Westman, qui a commencé à faire des recherches manuelles dans ce domaine. C'était avant les ordinateurs, avant Windows et tutti quanti. Et il avait commencé en regardant le texte de la Bible, ce qu'on appelle le texte masorétique, qu'on a retrouvé dans les livres de Qumran, comme les livres qu'on avait reçus datant du IXe siècle. Il a vu que, par exemple, il trouvait la première lettre du mot Torah, qui est la loi, ou les cinq premiers livres de la Bible, qui veut dire la loi en hébreu. S'il comptait sept lettres après le lettre T, dans un certain texte de la Genèse, il trouvait le O, sept lettres plus loin, il trouvait le R, sept lettres plus loin, il trouvait le A, sept lettres plus loin, il trouvait le H. Et puis, il s'est amusé comme ça avec trouver des textes, des mots, en prenant des séquences de 5 lettres, donc, après 7 lettres, 22 lettres même, il trouvait. Malheureusement, il a pas gardé ça par écrit, et c'est récemment, beaucoup plus récemment, que des chercheurs en informatique à l'université hébraïque de Jérusalem, qui ont mis en route les ordinateurs et des nouvelles techniques d'analyse statistique pour chercher à travers le texte masorétique, le texte biblique, des répétitions des lettres qui apparaissaient à une distance donnée. C'est ce qu'on appelle maintenant des séquences de lettres équidistantes. C'est-à-dire qu'on prend 7 et puis on va voir 7 loin plus loin. Et avec l'aide d'ordinateurs, ils ont trouvé des tas de mots qui étaient ainsi insérés dans la Bible. Et c'est un espèce, je ne sais pas si vous avez jamais essayé de faire des mots croisés, de composer une grille de mots croisés, c'est pas facile. Mais là, c'est non seulement des mots croisés, mais c'est des mots qui se chevauchent à des intervalles plus ou moins réguliers. Alors, bien sûr, c'est une découverte fantastique. Et ça fait vendre les journaux. Les livres, il n'y a pas longtemps, à l'aéroport, il y a, je crois qu'il s'appelle Dronin, qui a publié un deuxième livre, sur les codes secrets de la Bible. Les gens aiment bien ce qui est un peu secret. Alors qu'en fait, Dieu nous donne peut-être ces messages, mais c'est pour dire, ça c'est ma signature en fait. C'est pour que vous sachiez que ce n'est pas quelqu'un qui a imaginé ça, c'est moi qui vous ai parlé. Parce qu'on réalise qu'en fait, il a fallu les ordinateurs pour trouver ces choses au milieu du XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Il n'y avait pas d'ordinateur il y a 1500 ans pour mettre ces choses, pour composer. Ça venait inspiré par Dieu. Alors encore une fois, parce que c'est tellement sensationnel, c'est pas quelque chose sur laquelle je veux fonder ma foi. Les prophéties sont beaucoup plus fortes pour moi. mais c'est quelque chose qui devrait troubler au moins ceux qui ne croient pas. Et parmi les Juifs, ces découvertes ont redonné un grand intérêt à la lecture de la Bible. Alors, bien sûr, l'homme va essayer d'aller plus loin. Certains essayent d'utiliser ces codes secrets pour prédire l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui est complètement contraire à la volonté de Dieu. On peut trouver, alors certains ont trouvé le mot de Yitzhak Rabin. Ils ont trouvé ils ont trouvé des passages qui peuvent parler de la Révolution française. La Bastille se trouverait dans ces codes secrets. Alors, je reste prudent parce que je ne veux pas. Mais sachez qu'il y a toute une découverte qui se fait dans ce domaine et qui confirme les paroles de Jésus qui disait: en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça, c'est Matthieu 5, 18. Dans le sermon sur la montagne, le iota, c'était, on pourrait dire aujourd'hui, un point sur le i, ou le trait de lettre, c'est la barre d'un t. Tout ce qui est dans la Bible est là par dessein. La Bible est un système de messages intégrés. Dieu veut nous parler. Dieu communique avec l'homme. Il est dit que dans le Proverbe 25, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire de roi, c'est de scruter les choses. Proverbe 25, 2. Quelque part, quand on commence à étudier la Bible, on peut s'attendre à vraiment s'embarquer dans une aventure. Il y a le texte, mais il y a toutes ces choses qui nous prouvent encore que ce texte, il n'a pas été fabriqué par l'homme, mais qu'il vient de Dieu. La Bible est aussi unique avec sa concordance avec l'histoire officielle, l'histoire non biblique. L'histoire des peuples, généralement, se mélange avec de la mythologie. Si on parle du peuple des Européens, par exemple, le peuple romain, si vous vous souvenez vos études en sixième, c'était d'où ils viennent, les Romains ? Il y avait Rémus et Romulus qui ont été nourris par la louve sur le Capitole. Il y a toujours un peu un mélange de mythologie qui arrive. Les Gaulois, ça remonte aussi aux dieux barbares, et puis comme les Vikings et leurs dieux, Olaf Grosbaf et tout ça, quoi, Il y a toujours cette histoire un peu de mythologie qui explique. Rien de tel en ce qui concerne le peuple de Jérusalem, le peuple des Hébreux. Le peuple des Hébreux, il y avait Abraham que Dieu a appelé, et puis on voit comment le peuple a commencé à... Il n'y avait pas de demi-dieu, il y avait le Dieu Tout-Puissant et qui est intervenu dans les hommes. Beaucoup d'historiens mettaient en cause la Bible en disant qu'on n'avait jamais entendu parler de Ponce Pilate en dehors de l'histoire biblique. Et puis il y a quelques vingtaines d'années, on a trouvé des fragments de terre cuite où il y avait bien marqué Pontius Pilatus, ou je ne sais pas comment dire en latin. La Bible est toujours confirmée par l'histoire jusqu'à présent. Il y a une grande concordance avec l'archéologie, et en général, lorsque les gens essayent de mettre en cause la Bible, c'est la Bible qui les remet à leur place quelques années plus tard. L'influence sur la littérature, on l'a évoqué au départ, toute notre culture est imprégnée d'histoire biblique. Nos classiques, c'est l'histoire biblique. Et c'est pour ça que c'est bien triste de voir qu'en fait, il y a une génération qui grandit sans racines et sans crainte de Dieu. Quand j'étais écolier, je me souviens qu'avant de commencer le cours de français, d'écriture, on lisait un texte de morale. Le professeur, le maître écrivait une petite phrase qui disait par exemple: ne faites pas à autrui ce que ne voulez pas qu'il vous fasse. Aidez les personnes qui sont plus faibles que vous. Mais ça, bien sûr, c'était déjà laïque. Il n'y avait pas de référence à des versets bibliques, mais c'était la morale judéo-chrétienne, c'était la morale issue de la Bible qu'on inculquait. À l'époque, les problèmes dans les écoles, c'était que les élèves parlaient dans les rangs, ou qu'on mâchait du chewing-gum pendant les cours, ou qu'on copiait pendant l'examen sur la copie du voisin. Maintenant qu'on a fait table rase de toute cette moralité judéo-chrétienne, on a des viols, on a des armes à feu, on a du racket dans les écoles, on a des jeunes qui vont mettre le feu aux voitures pour s'amuser, et on a besoin de revenir à la Bible. La Bible, elle est formidable, elle est merveilleuse, encore une fois, parce qu'elle est inspirée par Dieu. C'est 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, comme soufflée par Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Le psalmiste disait « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », psaume 119. Jésus disait à son Père « Sanctifie-les par ta vérité, par la vérité, ta parole est la vérité ». L'auteur de la lettre aux Hébreux disait « La parole de Dieu est vivante et efficace ». C'est ce que disait Napoléon. « Plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et les juge des sentiments et des pensées du cœur ». Finalement, cette parole que Dieu a envoyée, Ésaïe nous dit que « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet, sans avoir exécuté ma volonté. » Accomplit avec succès ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Dieu a de la suite dans les idées. Cette parole que ses adversaires ont essayé de détruire depuis des années, elle est toujours là. Elle est toujours là, prête à nous parler, à nous guider, à nous encourager. C'est le message d'amour de Dieu. Et donc, dans les semaines à venir, on va essayer de mettre en valeur toutes ces caractéristiques dont on a parlé, de montrer encore une fois que c'est vraiment un message complet que Dieu nous envoie. Et il a pris des précautions pour qu'on, encore une fois, pour qu'on ne puisse pas dire « Oh, c'est fabriqué par l'homme », parce que l'homme n'aurait jamais pu assurer une telle harmonie, une telle unité, une telle profondeur, une telle richesse. Remercions Dieu de nous l'avoir envoyé. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous donner de la connaître. Merci de ce qu'elle est disponible. Nous pouvons l'acheter, nous pouvons la lire en France. Nous voulons te prier pour tous les pays où elle n'est pas disponible, les pays où les gens sont persécutés s'ils sont trouvés en possession d'un tel livre. Seigneur, fais de nous des lecteurs de ta parole, mais encore plus, Seigneur, fais de nous des auditeurs. Fais que nous obéissions à ta parole, Seigneur, qu'elle nous reprenne, qu'elle soit là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous reprendre, pour nous éduquer dans ce qui est vraiment ta justice, pour que nous soyons prêts à toute œuvre bonne, Seigneur. Je te prie d'encourager tous nos frères et sœurs ici présents et, Seigneur, de leur donner soif de faire cette étude ensemble, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.